tous les samedis, 10h midi. Bienvenue chez Beaugrand avec Christophe Beaugrand.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur M Radio. Comme tous les samedis, on se retrouve pour Bienvenue chez Beaugrand, votre nouveau rendez-vous tous les samedis. 2 heures de balade, de discussion, de confidence, de fou rire parfois avec un de vos artistes préférés, Thomas et Thomanette ce matin. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Ah, il a une belle voix, c'est formidable. On est très heureux de recevoir notre invité ce matin. Alors, pour vous le présenter comme d'habitude, j'ai des petits indices. Voici le premier sur son prénom. Voilà, c'est moi David, voilà de la musique de qualité. Le chanteur s'appelle le fils de Momone. Donc voilà, là c'est pas le fils de Momone, il a d'autres parents célèbres. Alors on a donc le prénom pour le nom de famille, deuxième indice.
Tu te rends compte si on n'avait pas perdu 1h15 ? On serait là depuis 1h15.
Bon alors vous avez reconnu Johnny Hallyday évidemment, la voix de son papa David plus Johnny, ça donne David Hallyday bien sûr. Qu'est-ce que je suis content de recevoir David Hallyday ce matin, ça va ?
Mais c'est moi qui suis content, ça va et toi ?
Ça te fait toujours plaisir d'entendre ton père dans ses grands moments de philosophie.
Oui,
si on était parti,
oui.
C'est
tellement logique en même temps.
On serait arrivé
plein de bon sens, mais évidemment.
Alors, tu es au taquet en ce moment avec la tournée Requiem pour un fou. Il y a encore beaucoup de dates, on va avoir l'occasion d'en parler. Pour que les gens comprennent, ceux qui ne seraient éventuellement pas au courant, il en reste peut-être quelques-uns, c'est une tournée où tu chantes à la fois tes chansons et puis celle de ton père. T'as envie de rendre hommage et à la fois de t'éclater avec cette musique que t'as toujours entendue.
Absolument, mais c'est aussi des chansons que je les ai refaites.
Ouais.
Je les ai refaites.
Réorchestrées.
Je les ai réorchestrées à ma façon et j'essaie de m'approprier au mieux de ces titres et de refaire les miens aussi, où les prods avaient un peu vieilli, on va dire, des années 80. Donc je me suis amusé à faire ça, de fil en aiguille, finalement, j'ai monté ce projet.
Oui, parce qu'il y avait l'album d'abord et puis le concert, évidemment. On va justement écouter, puisque c'est la nouvelle chanson qui vient de sortir de cet album, ta nouvelle version de Tu ne m'as pas laissé le temps, et on en parle, allez, dans 4 minutes.
Je reste avec mes souvenirs, ces morceaux de passé. Comme un miroir en éclat de verre. Mais à quoi ça sert? Ce que je voulais te dire reste sur des pages blanches sur lesquelles je peux pas laisser le temps. Toi qui m'as tout appris et m'as tant donné, c'est dans tes yeux que je grandissais et me sentais fier. Sans prévenir, un jour tout s'arrête et vous laisse encore plus seul sur terre. Oui, sans savoir quoi faire, tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime, ni tout ce que tu me manques. Tu ne m'as pas laissé le temps. passer le temps. Tu ne m'as pas laissé le temps.
Tous les samedis, 10h midi. Bienvenue chez Beaugrand avec Christophe Beaugrand.
Et surtout avec David Hallyday ce matin sur M Radio avec nous jusqu'à midi. Alors ça c'est quand même une chanson magique. Hein.
C'est l'origine, c'est l'original. C'est
voilà, exact. Mais quand on signe une chanson comme ça, un tube comme ça, qui reste dans les mémoires, qui devient, on peut le dire maintenant, un classique de la variété française, c'est quelque chose quand même.
Ah, tu m'étonnes, c'est quelque chose, parce que c'est jamais prévu en fait, ce genre de truc. Tu composes et en fait tu fais ce qui te plaît et ce que tu crois être bien pour toi, ce qui te fait plaisir, mais tu sais jamais en fait, parce que
oui, tu t'es là, pas rendu compte quand tu l'as écrite que tu t'es dit ah je tiens un truc là, il y a quelque chose
si,
quand
si,
même.
Tu dis comme si quand même si, il y a quand même des chansons où tu te dis je trouve qu'il y a quelque chose de particulier, de fort. Le thème de cette chanson était quelque chose de fort aussi, qui est un thème assez universel,
oui, qui était donc, pour le coup très personnel,
donc il faisait partie de mes préférés de l'album, mais d'ici que ça plaise à moi, c'est une chose,
ouais.
mais que ça fasse
résonne chez les gens
comme
ça, ouais.
C'est toujours un peu c'est un peu miraculeux, toujours ce genre de choses, tu vois, quand tu penses à l'impermanence de la vie, rien n'est gravé dans du marbre, tu sais pas en fait, et c'est cette impermanence qui fait que ça rend la vie excitante. Quand tu sors quelque chose, tu dis bon, ben j'espère que ça va plaire. Et donc, et ce
surtout que là, ça dure, parce que je voudrais pas te filer un coup de vieux, mais ce tube a quand même 26 ans,
ouais, quand
plus
même,
d'un quart de siècle. Ouais, ouais. Si on t'avait dit 25 ans après que tu la chanterais encore dans les Zéniths de France, t'aurais signé tout de suite, j'imagine, ça c'est sûr.
Ah bah oui, tout de suite, d'accord. Écoute, je veux bien, oui.
Je redonne quand même quelques chiffres, hein. Plus d'1 million de disques vendus, le prix de la chanson populaire de la SACEM, et puis la récompense la plus inestimable, quasiment tous les Français peuvent la fredonner, connaissent les paroles. Tu t'en rends compte, ça, peut-être quand tu te balades, parfois quand tu prends le taxi, tu te rends compte, elle passe à la radio tout le temps, en fait.
Oui, j'entends quelques fois, et ça me
ou dans les magasins, bizarre. Parfois.
Ouais, que ça me fait bizarre. Et tu sais, quand c'est ta chanson et puis que tu l'as entendue, tu l'as chantée 10 millions de fois, tu l'entends à la radio, tu dis en même temps, tu dis ah putain c'est cool. Et en même temps tu dis encore cette chanson. Enfin, oui. t'as les deux. En fait, t'as les deux côtés, quoi. Tu vois.
Mais du coup, mais c'est génial, en concert, tu ne peux pas ne pas la chanter, forcément.
Non, mais attends, mais c'est pour ça aussi que mon excuse personnelle de pouvoir kiffer en même temps, tu vois, de rechanter cette chanson pour la 12 millième. C'est de refaire en fait le titre, c'est de refaire le titre et d'en faire une nouvelle version.
Oui, c'est pour
sans
ça
trahir l'émotion
qu'il y avait. T'as voulu la pimper, la moderniser.
Oui, j'ai voulu que ce soit quelque chose de qui me ressemble le plus aujourd'hui. Donc là, ça prend une tournure qui est totalement différente. Je ne dis pas que en fait, je peux changer de version à un concert à un moment donné quand j'en ai marre aussi.
C'est quoi l'idée dans le changement, ce que tu as voulu changer comme façon d'appréhender le titre?
Alors ça, c'est le titre où j'ai le plus galéré, entre parenthèses, à refaire. Et je pense que c'est toujours, mes titres à moi, je galère plus que les titres que j'ai composés pour d'autres. Peut-être parce que je me pose plus de questions, il y a plus de... Voilà. Il y a tellement de façons de refaire un titre, en fait. Et tu sais jamais si c'est la bonne que t'as choisie, en fait. Donc j'ai essayé, je me suis pris à 4-5 fois sur ce titre-là. Et il y avait des prods que j'aimais beaucoup, mais qui enlevaient de l'émotion, je trouvais. Ouais. Donc finalement, après avoir vécu avec une ou deux semaines, je dis non, je recommence. Et je suis arrivé à cette version-là, avec un mélange d'organique, très organique, et en même temps un peu d'électro derrière pour soutenir dans les basses et qui ramène une émotion différente, mais une émotion quand même. Et c'est ce que je voulais, dans tous ces titres-là, que ce soit pour ces titres ou les miens, je voulais garder l'émotion initiale qu'il y avait dans ces titres, mais en même temps proposer quelque chose de nouveau.
Cette émotion qu'on retrouve évidemment dans la tournée, dans les concerts où tu chantes quelques-unes de tes chansons, aussi beaucoup de ton papa, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, ton papa était célèbre il y a quelques années, un certain Johnny Hallyday. Ça me dit quelque chose. Ton rapport à Johnny, on en parle dans un instant sur M Radio. On est avec David Hallyday et on est très heureux de l'avoir avec nous ce matin sur M Radio.
Tous les samedis, 10h midi, bienvenue chez Beaugrand.
Et bienvenue David Hallyday, bienvenue sur M Radio, votre tout nouveau rendez-vous interview. Merci d'être avec nous. L'album Requiem pour un fou de David Hallyday est toujours disponible.
Au-delà de nos différences.
Voilà, ça c'est 100% évidemment le magnifique, la magnifique chanson que tu as écrite pour ton père. Là encore, tu l'as réorchestrée et c'est un duo. C'est un duo virtuel. C'est ça qui est le plus frappant peut-être. Et l'idée évidemment de rajouter un peu d'électro dans cette version peut-être plus moderne. Et tu as donc retravaillé les bandes en récupérant la voix de Johnny, la voix pure.
Ouais, bah en fait, c'est inavouable, mais l'idée ne vient pas de moi en fait. C'est j'aurais bien aimé, mais des fois tout ne vient pas de moi. C'est un pote qui lors d'un déjeuner m'a dit, mais tu l'as chanté combien de fois en duo avec lui cette chanson? Et parce que je lui dis que je l'avais refaite moi tout seul.
Et tu l'avais chanté quelques fois sur scène, mais à la base.
Mais plein de fois sur scène.
Ouais, et pour l'album, tu l'avais réenregistré tout seul à la base.
Ouais, c'est ça. Et on l'a fait, je sais pas combien de fois, tous les deux pour la télé, sur ses concerts. Une fois sur un de mes concerts aussi, il est venu. Donc, et il me dit, mais pourquoi ce duo n'existerait pas, en fait? Et je dis, mais oui, j'avais jamais pensé, en fait.
Il était jamais sorti en disque.
Non, jamais. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais tenter l'histoire et puis je vais voir ce que ça donne. Donc, j'ai été reprendre sa voix du master, donc j'ai été recherché.
Donc l'enregistrement original, l'enregistrement quand il a posé sa voix. C'est-à-dire que la voix pure.
Oui, pardon, je devrais expliquer. Oui.
La voix pure, c'est-à-dire absolument sans musique.
Voilà. Donc,
et ça fait quel effet de réentendre?
Tu isoles la voix qu'il y a sur la bande, en fait. Et donc tu la mets sur une autre partie de musique. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, du coup, j'ai voulu laisser celle que j'avais faite moi tout seul. Ouais. En fait, ça matchait pas bien avec sa voix. Au niveau de l'émotion, c'était pas pareil, en fait. Et donc j'ai décidé de refaire ma partie. Ouais. Et donc j'ai refait ma partie avec lui dans les oreilles. C'est vrai que ça m'a fait bizarre, mais en fait c'est le seul témoin, on va dire, d'un duo phonographique qui existe, c'est celui-là. Ouais.
Parce que c'est vrai que ce qu'il faut comprendre, et les gens ont peut-être parfois du mal à se rendre compte, c'est que Johnny, c'est pas une star, pour toi c'est ton papa, donc t'avais la voix de ton papa dans les oreilles. Ça devait être un moment émouvant quand même.
Ah bah c'est un truc de fou, oui, c'est sûr. C'est même difficile à expliquer ce ressenti, parce que il y a dans ce ressenti, il y a une émotion, mais il y a pas qu'une émotion, il y en a plein. Il y a plein de choses, de souvenirs qui passent dans la tête et que je ressens dans mon cœur, quoi. Ouais. Tu vois, dans mes tripes. Donc c'est ça qui rend la chose forte. Mais en même temps, si tu veux, c'est ce que j'essaye de faire passer dans cette histoire que je raconte dans Requiem pour un fou, qui est cette formidable histoire de famille qu'on a, qui est si particulière. Finalement, parce que depuis plusieurs générations, on est tous des artistes dans ma famille. On a des peintres, des sculpteurs, des musiciens, des compositeurs. On a des auteurs. On a des gens de la famille que le public ne connaisse pas. Donc,
mais c'est une dynastie d'artistes.
Oui, et c'est quand même assez particulier, parce que il y en a bien un qui va pas être artiste. Tu te dis, tu vois. Moi j'ai été élevé, on va dire, dans ces valeurs-là, comme la trace qu'on laisse chez nous, c'est quelque chose d'important pour les futures générations. Ouais. Déjà pour essayer de parler en bien de nous, de ce qu'on a fait, de notre travail, de ce qu'on a pu accomplir. Et donc c'est dans Requiem pour un fou que je veux raconter cette histoire. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a commencé à raconter dans l'album que je lui ai fait, 100%, cette histoire de transmission qui a été si importante pour moi.
Est-ce que tu en as voulu à un moment donné au public? Parce que on a l'impression qu'il est à nous, Johnny. Et toute ta vie, t'as dû partager papa avec tous les Français.
Mais il est. Plus tard, j'ai compris ça. Mais petit, oui, c'était très bizarre. J'ai l'impression, et je l'ai écrit quand j'ai fait mon autobiographie, quand j'étais tout petit, j'ai l'impression qu'on me volait un peu mes parents. Et puis c'était une époque de...
Ah, c'était la folie.
Une époque de ouf, où les gens se jetaient carrément à la sortie de chez nous. Et quand t'as un témoignage de ça, petit, ça fait quand même bizarre. C'est pas un truc normal, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, bien sûr. Donc, mais même votre deuil familial, il a fallu le partager. Ouais, c'est devenu une journée où la France est quasiment arrêtée. Enfin, on a tous suivi ça à la télévision ou même dans Paris, puisque beaucoup de gens avaient fait le déplacement. C'est quand même particulier.
Pour moi, c'était très difficile, parce que j'ai des sentiments mélangés, en fait. Mmh. En même temps, il y a cette énorme icône et qui comptait pour les gens et qui représente tellement de choses. Donc, tu comprends ça.
Ouais.
Et en même temps, tu es confronté à ta perte, ouais. t'es une douleur immense. Donc, t'as les deux choses qui ne se marient pas bien ensemble, finalement, qui t'habitent. Et c'est compliqué. Mais en même temps, ça te rend plus fort à la fin de la journée. Donc, donc c'est des choses qu'il faut endurer et essayer de comprendre.
Et puis il y a un shoot d'amour du public qui est ouais, voilà, c'est... les gens t'aiment, les gens sont hyper attachés à vous tous.
Oui, ils aiment cette famille depuis le début. Mes parents, ils ont tellement œuvré, on va dire, pour les gens. Donc c'est très très émouvant, ouais, c'est clair.
On revient dans un instant à ta tournée, à cet album, l'hommage de David à son père Johnny, dans un instant sur M Radio. On est ensemble.
Ça change un petit peu.
Bienvenue chez Beaugrand, 10h midi sur M Radio.
Requiem pour un fou, c'est une tournée qui cartonne depuis plusieurs mois, qui continue encore en 2026. T'avais déjà tourné autant avec une seule tournée, ouais.
Oui, j'ai fait même tourner plus.
Ouais. Parce que là, c'est ça.
Il y a une fois, j'ai fait plus de 200 dates en...
Ah oui.
Ouais, donc ça fait quand même beaucoup. J'ai plus tourné.
En tout cas, c'est des dizaines de milliers
de personnes
qui sont...
Mais c'est pas la quantité, c'est l'intensité, en fait.
Ouais.
Parce que tu peux tourner, 300 jours par an. Et bon, au bout d'un moment, mais...
Et le faire en pilote automatique, c'est ça?
Un petit peu, ouais. Parce qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place. Et tu vois, et au bout d'un moment, t'y vas, tu vois, tu réfléchis plus. Mais là, c'est un peu différent.
À quoi peuvent s'attendre les spectateurs qui vont venir te voir?
Un gros show,
ouais.
Un gros show avec cette histoire que je raconte. J'ai essayé de mettre les titres de cet album, puis d'autres aussi évidemment. Mais je raconte cette histoire d'une façon assez chronologique,
ouais.
Dans la mesure où j'ai composé des titres aussi par rapport à certaines chansons qu'il avait sorties, et j'explique un petit peu le pourquoi du comment. Donc
tu parles aussi au public entre les chansons?
Pas entre toutes les chansons, mais je parle, oui, oui. Il y a des moments où j'explique les choses, oui.
D'accord.
Et je donne des anecdotes de comment la chanson s'est faite et tout ça. Et pourquoi aussi sur des gros titres phares emblématiques. Voilà, c'est pas un hasard, par exemple, si je mets une chanson à moi après une de ses chansons à lui pour parler un petit peu de ce transfert, en fait.
Oui, il y a une cohérence.
Il y a une cohérence entre les titres. Et puis, c'est surtout un titre, j'ai voulu que ce soit très théâtral, très fort, puissant, avec des moments plus calmes,
ouais.
Mais toujours dans quelque chose de fort. Et c'est ce que j'ai voulu. Donc... Et puis c'est ce que j'ai, donc on a beaucoup tous œuvré pour faire fonctionner cette histoire.
Alors on
et
retrouve,
ça se passe super bien.
On retrouve l'envie, Diego, Oma Jolie, Sarah, Requiem pour un fou évidemment, ouais. Laura. On va écouter un tout petit extrait de la bande-annonce de cette tournée de David Hallyday. Okay. Et il y a donc évidemment 100% qui reste une des plus belles chansons de Johnny, on le sait, et qu'on retrouve en duo virtuel. Ça veut dire que tous les soirs, quand tu chantes, il est là, Johnny, il est avec toi, via ce duo virtuel.
Pas simplement, j'ose espérer qu'il est là souvent avec moi, pas simplement quand je chante.
C'est une fierté quand même de lui avoir offert ces mots-là. C'est une chanson qui a marqué le public et lui aussi qui l'a marqué.
L'album, c'était un moment déjà particulier pour nous, pour lui et moi. On en a souvent parlé après... En disant moi ce que j'avais envie, c'est qu'il soit fier de cet album, qu'il ait envie de le défendre.
Ouais.
Et j'espérais que ça fasse partie d'un de ses gros albums de sa carrière.
Mais c'est
ça,
devenu un classique.
Mais ça, tu sais pas encore quand tu es en train de le faire. Je savais que ça allait sans doute plaire parce que c'est lui, tu vois.
Ouais.
Mais je savais pas à quel point ça allait être énorme pour lui et donc forcément pour moi aussi qu'il l'ait fait. Mais après, on parle des succès commerciaux et tout et c'est fantastique et on espère toujours que ça marche. Mais on va dire sur cet album-là, moi ce qui me reste, c'est les moments qu'on a passés ensemble parce que j'habitais à cette époque-là encore aux États-Unis. J'étais dans mes groupes, dans mon groupe de rock là-bas, et on tournait sans arrêt. Et donc ça, c'était un petit peu une parenthèse dans ma vie du moment. Et en même temps, ça nous a permis de nous reconnecter ensemble parce qu'on se voyait pas souvent.
Ouais.
Et comme on s'était s'est pas vu souvent dans mon enfance et tout ça. Donc c'était un petit peu à la recherche du temps perdu, tu vois, de se reconnecter. Et cet album, pour moi, c'est le symbole de la reconnexion humaine qu'on avait tous les deux.
Oui, ça a été un catalyseur
après,
de quelque chose.
Après le succès commercial, ça on va dire que c'est la cerise sur le gâteau, c'est un autre truc, et tant mieux. Mais surtout, je n'oublierai jamais les moments qu'on a passés ensemble et les conneries qu'on a pu raconter, faire aussi, tout ce qui fait partie de la conception de cet album.
On parle de toi sur scène, est-ce que tu as mis, je ne sais pas, peut-être un peu de temps avant de te libérer sur scène? Parce que quand on passe derrière un monstre comme Johnny, est-ce qu'il y a eu des hésitations parfois quand tu as commencé ta carrière? Tu dis, bon, alors est-ce que sur scène, voilà, il y a l'exemple au-dessus, quoi, c'est difficile peut-être?
Non.
Non, tu t'es jamais posé ces questions-là?
Non, parce que je pense que d'abord, j'ai commencé ma carrière aux États-Unis, donc j'avais pas ce poids-là. Moi, je suis compositeur à la base, donc pour moi, j'ai toujours fait un métier qui est différent de ceux de mes parents, quelque part.
Ouais. Parce que ils étaient interprètes.
Ils étaient interprètes. Moi je crée, en fait. C'est moi qui crée la musique. Donc pour moi, c'était déjà quelque chose de différent. Et quand j'ai commencé à chanter dans mes groupes de rock et tout ça, il n'y avait pas cette identité-là là-bas. Donc j'ai pu me développer et bosser sur mon identité à moi et qui j'étais à cette époque-là, sans faire attention au reste, parce que j'étais loin de ça finalement. Donc je prends ça comme une chance, en fait. Je prends ça comme une chance parce que j'ai pu vraiment me concentrer sur qui j'étais et ce que j'avais envie de donner, qui était totalement différent de ce que donnaient les parents, quoi. Parce que je pense que l'art, c'est comme ça. L'art, c'est... on doit se différencier, on doit être différent. Et aujourd'hui, on vit à une époque si compliquée de code-barres et de codes où, finalement...
Il y a une uniformisation un petit peu des choses.
Et je trouve ça dommage, quelque part, parce qu'avant, on cherchait à être différent, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ?
Aujourd'hui, on cherche à faire tous la même chose. Parce que les trucs qui marchent, quoi.
Mais c'est un truc qui fait partie de l'industrie de la musique, malheureusement aussi, en France. Et donc, non, pour répondre à ta question, j'ai jamais été... j'ai toujours été dans mon truc...
T'as tracé,
ta
voix.
Ouais, exactement.
On continue de parler de musique avec David Hallyday dans un instant sur M Radio.
Jusqu'à midi, Christophe Beaugrand sur M Radio.
Vous avez bien fait de choisir M Radio ce matin, car David Hallyday est toujours avec nous. Ma jolie Sarah... Ça fait partie des reprises de l'album et de la tournée, évidemment. Tube culte de Johnny. Et alors, cette chanson, ça m'a particulièrement intéressé sur l'album, parce que pour toi, c'est vraiment une chanson d'enfance. Tu avais 4 ans quand elle est sortie, cette chanson. T'étais un petit garçon, elle est sortie en 71. Donc, il y a des souvenirs d'enfance qui sont liés à cette chanson pour toi.
Mais tellement, Quand j'ai commencé à jouer de la batterie, c'est-à-dire très tôt, j'ai 6-7 ans, j'avais des clos communs sur cette chanson, sur la batterie, quoi. Je jouais cette chanson tout le temps, donc forcément elle fait partie de mon ADN. Et puis surtout, c'est Tommy Brown qui était le batteur de mon père à l'époque, batteur extraordinaire. Donc, j'étais complètement fan, des fois je me poussais pour regarder sur scène, pour regarder Tommy Brown. Et c'est lui qui avait composé ce titre. Voilà, il y avait tout réuni pour que m'éclater sur ce titre, donc je voulais la refaire et faire aussi honneur à Tommy Brown, si tu veux.
Le batteur culte de cette époque.
De cette époque, et à refaire un truc différent, mais on va dire tout aussi scénique, quoi.
Puisqu'on parle de batterie, on va justement écouter ta maman Sylvie, qui dans un documentaire il y a quelques mois, parlait de ta passion pour la batterie.
Il a commencé à jouer de la batterie, vraiment, sans qu'on le pousse à quoi que ce soit. Il a découvert les cuillères en bois de la cuisine. Après, on est passé des cuillères en
secret
bois
famille.
À la petite batterie jouet, alors qu'il a fait un tabac formidable. Et puis après, est arrivé le moment fatidique où,
hélas,
pour un Noël,
faire du bruit,
une vraie grande batterie.
C'est un enfant bruyant.
Professionnel.
Ouais.
Là, c'est toi qu'on entend jouer de la batterie, là. Et ce qui est génial,
oh
c'est...
Oh là là, je sais où il a pris ça.
À 7 ou 8 ans, tu t'es retrouvé sur scène par surprise pour faire une surprise à ton père, même plus jeune, je crois.
Non, j'avais 12 ans.
Ah non, t'es plus grand.
12-13 ans. Ouais, 12 ans, 13 ans. Ouais, sur rien que 8 jours.
Et tu t'es retrouvé à jouer de la batterie sur scène pour ton père. Il s'est retourné, il a vu, c'est mon fils, là.
Oui, il n'était pas au courant du tout. Ouais.
Et il s'est dit, ça fait pas le même bruit que d'habitude.
Oui, c'est ça. Et c'était une idée de mon oncle, en fait. C'était une idée de mon oncle. Parce qu'en fait, c'était la dernière de sa tournée. Et à l'époque, tout le monde faisait des jokes, des vannes, des trucs. Bon, à la fin de les derniers concerts. Et donc, voilà, c'était la surprise. Et moi, j'avais pas eu le temps de la répéter, cette chanson, parce qu'elle faisait pas nécessairement partie des chansons que j'écoutais. Tu vois, rien que 8 jours, c'était pas une chanson que j'écoutais. Donc j'étais pétrifié, en fait. Donc j'avais 5 minutes.
C'était où, tu te rappelles?
Oui, c'était au Pavillon de Pantin, où maintenant il y a le Zénith maintenant à la place du Pavillon de Pantin.
Il devait y avoir du monde, hein, du coup, dans le public.
Ah ouais, c'était.
Ça, c'est flippant.
Il y a du monde. Et ouais, j'étais pas habitué, surtout. J'étais habitué pour lui de le voir, mais pas pour moi, en fait.
Oui,
moi,
toi, t'étais de l'autre côté d'habitude, t'étais pas sur scène.
Non, ouais, exactement. Et bon, j'ai eu 5 minutes à l'apprendre, si tu veux. Donc, j'étais pétrifié, quoi. La batterie était trop grande pour moi. Enfin bon, il y avait tout qui allait pas. Et là, c'était un moment de terreur, on va dire.
Ça reste un bon souvenir quand même avec le recul.
Ça reste un souvenir énorme parce que il m'a présenté et tout ça, j'étais très très timide. Et en sortant, le temps que je me remette un peu de mes émotions, j'avais dit à ma mère, j'ai dit, tu sais quoi, c'est énorme de jouer devant des gens, en fait. C'est génial. Un jour, je ferai ça aussi. Un jour, je chanterai mes chansons devant des gens. Ça a été un des déclencheurs.
Ça a été
un
déclic, ouais.
Ça a été un déclic.
Mais c'est génial parce que la musique, tu pouvais pas y échapper. Il y a plein de gens qui se posent des questions comme ça. Mais c'est vrai que les médecins transmettent souvent la passion de la médecine à leurs enfants. Il y a des destinées, des dynasties de médecins. Il y a des restaurateurs, il y a des boulangers. Toi, t'as été immergé dans la musique. Donc, t'as eu envie aussi de faire ta musique.
Ben moi, je suis né avec cette vocation, en fait, de composer, d'inventer des histoires. En fait, j'étais un peu, j'étais pas timide, mais j'étais très réservé. Et j'étais plus observateur que. Alors évidemment, dans le privé, j'étais un peu casse-cou et tout ça. Mais sinon, j'aimais bien observer les gens j'avais du mal à parler, en fait. Et donc la musique, pour moi, c'était quelque chose d'évident. Où je suis arrivé, je dis, finalement je peux m'exprimer, je peux parler de mes émotions, mais dans ce que je fais, dans ce que je crée, en fait. Et donc ça a toujours été depuis le début, dès que j'ai commencé à pianoter, j'ai essayé de trouver des mélodies tout de suite, même avant de savoir jouer correctement, si tu veux. Ça m'amusait beaucoup et je trouvais que c'était, voilà. Et je savais que je voulais faire ça dans la vie. Je savais pas comment j'allais le faire, et de quelle façon. Mais je savais que j'allais faire de la musique. C'est la différence entre une vocation et une passion. Une passion, ça peut se déclarer à 40 ans. Et tu le fais le week-end, tu le fais quand tu peux. Une vocation, c'est quand tu es né pour faire quelque chose. Et moi, je suis né pour composer des chansons. Et ça a été le truc miraculeux de ma vie. Ouais. C'est-à-dire que j'ai eu des parents qui étaient dans le même métier et qui ne m'ont pas empêché, parce que ça peut arriver.
Ouais.
Parce que j'entends encore souvent dire, mais c'est difficile comme métier. C'est pas un truc fiable. Tu sais pas. Et puis, ce que je peux comprendre.
Oui, trouve un vrai métier.
Ils ont sans doute peut-être un peu raison, mais moi, parce que mes parents étaient dans le même domaine, dans cette même structure, au contraire, j'ai toujours été encouragé et dit vas-y, fonce, fais ton truc. Et donc ça, c'était merveilleux. Jacob
L'une des nombreuses reprises de l'album Requiem pour un fou que vous allez pouvoir retrouver en tournée un peu partout dans toute la France. Dans un instant, David, attention, j'ouvre mon grenier. Le meilleur et parfois le pire de ce que j'ai dans mes archives et de ce qui traîne dans mon grenier, dans mes collections. Allez. J'ai trouvé des trucs, vraiment, là c'est rien que pour toi. Ça devrait te plaire, j'espère.
A tout de suite.
De 10h à midi, Christophe Beaugrand sur M Radio.
On est sur M Radio dans Bienvenue chez Beaugrand et c'est l'heure de la séquence préférée de nos auditeurs, les chansons du grenier, ma collection de disques, des tubes oubliés, des raretés, des reprises collector. On commence, mon cher David Hallyday, avec cette chanson, juste l'intro. Alors c'est Eurythmics,
Eurythmics,
Sweet Dreams, évidemment.
Évidemment.
Mais ta maman a fait la version française de cette chanson qui s'appelait Déprime. C'était en 1983, Déprime à quoi tu rimes avec ton parfum d'aspirine.
C'est super, j'adore le texte, il est génial.
Ouais, non, mais c'est culte.
C'est culte, ouais.
Tout le monde connaissait pas cette version.
Alors, elle s'est dit à une époque, je vais faire des reprises de tubes.
Bah, en fait, les reprises ont toujours existé. Il y a une époque où on en faisait moins.
Dans les années 60, c'était tout le temps.
En fait, il y avait beaucoup moins de d'artistes dans les années 60.
Ouais.
On va dire 70% du catalogue de mon père et de ma mère dans les années 70.
C'était des reprises.
C'était des reprises.
Des versions françaises de
Knock on Wood, ouais. Le Pénitencier. Il y en avait plein et c'était un truc. Et maintenant, on voit ça avec cette nouvelle génération qui se font connaître avec des reprises quand ils ont pas de chansons au départ, font des reprises et c'est super. Donc on revient, tout revient de manière, tout est cyclique.
Est-ce que tu te rappelles qu'elle avait aussi repris ça? The Eye of the Tiger.
Elle avait repris ça.
La bande originale de Rocky. La musique ne change pas, mais le refrain si. Écoutez, Sylvie.
Moi aussi, j'y crois jusqu'au bout, je peux tout affronter. J'ai tous les courages et même la haine.
Ah, ça, tu sais quoi? Je découvre ça.
Écoute le refrain.
Avec passion, on peut toujours faire
quelque chose. Avec passion, on peut toujours faire quelque chose.
Ben c'est vrai.
Voilà, ça s'appelait quelque chose.
Incroyable. Je ne connaissais pas.
Tu vois
comme quoi.
Eh ben, t'as bien fait de venir. Tu as été repris aussi, toi, par quelques chanteurs et de voix étranges. C'est la consécration parfois. Enfin, je dis étrange parce que j'en ai trouvé un. Je ne sais pas si tu connais. Il s'appelle Jordan Presto. Je ne sais pas si tu connais cet artiste.
Non.
Qui a fait une reprise de Tu ne m'as pas laissé le temps, une version très personnelle. C'est sorti en janvier dernier. Donc voilà la version de Jordan Presto.
Mais à quoi ça sert? Ce que je voulais dire reste sur le bout de la langue comme un secret en éclat de verre.
C'est étrange. Pourquoi?
Écoute,
pas
ça mérite un quartet peut-être.
Sinon, refrain.
Tu ne m'as pas laissé le temps.
C'est une version un peu dépressive, hein, là.
Dire tout ce que je
bon, ça fait toujours
ouais,
plaisir.
Écoute, why not? Tu vois ce que je veux dire? Tout est ouvert.
Non, mais, alors, tiens, on me fait signe en régie, on a trouvé une nouvelle reprise de Sylvie Vartan, Flashdance.
Ah non, tiens. Ah oui, oui, bien sûr. Mais...
L'évidence, c'est la danse.
Oui.
C'était la phase B de Déprime.
Pas pour moi, en tout cas.
Ah non, tu fais.
Non, pas pour moi.
T'es pas prêt pour danser avec les stars?
Non. Non, pas pour moi, mais bon, je peux le comprendre.
Ta mère a dansé un peu, hein, à l'époque.
Ma mère,
à l'époque, notamment à Las Vegas, elle a fait
incroyable,
aussi.
Des shows énormes. Avec des
costumiers
comme Bob Mackie à l'époque, il faisait toutes les robes des chanteuses américaines et tout. Ouais, c'est une grande époque.
Mais voilà, il a de qui tenir quand même notre David Hallyday.
Pas en danse, hein, mais
oui,
mais,
pas en danse.
Le reste peut-être.
Les plumes te vont beaucoup moins bien.
Non.
À suivre tous les petits secrets de David Hallyday. Merci d'être avec nous sur M Radio.
Tous les samedis, 10h midi. Bienvenue chez Beaugrand avec Christophe Beaugrand.
Toutes les semaines, on parle des secrets de nos invités. C'est un petit quiz qui va nous permettre d'en savoir plus sur peut-être ce que tu n'as jamais dit. Alors j'ai demandé à la voix de Secret Story de me faire le jingle.
Ici la voix. Il est l'heure de découvrir les secrets de l'invité dans Bienvenue chez Beaugrand.
Oh merde.
David, j'espère que tu es prêt. Quel est ton pire souvenir de concert ou de tournée?
Il y a un truc qui vient.
C'est quoi?
Eh ben, c'est au début du GPS. Je vais t'expliquer la corrélation entre le GPS et
je sens qu'il n'est jamais arrivé, à mon avis.
Et je... Voilà. C'est... En fait, c'était une tournée d'été. Je crois que c'était à l'époque. Il y a un gros truc qui s'appelait le Ricard Live. Mais
ouais.
C'était énorme. C'était des gros,
comme, des plateaux
gros
d'artistes,
festivals. Et en fait, j'étais en tournée moi-même. Je faisais les deux en même temps.
Ouais.
Et on est passé d'un bled. Je crois qu'on était à Bordeaux et on devait aller je ne sais où. Et on avait rentré, c'était sur la plage en fait, ce concert. On avait rentré, c'était le début du GPS, le nom du bled dans le GPS.
Et c'était pas le bon.
Et on est arrivé dans un village de 40 habitants, en pleine campagne où il y avait rien. Et là, on a vu traverser un chat comme ça. On s'est dit, mais t'es sûr que c'est là? C'est peut-être dans un champ quelque part. Et en fait, c'était pas du tout là. C'était à 450 km
ah
de
oui,
là.
Ah oui, quand même. Vous étiez planté de beaucoup.
Et donc, on s'est planté de beaucoup. Ouais. Donc, on pouvait un peu plus rouler à l'époque. Donc, on a roulé un peu plus vite que prévu.
Ouais.
Mais on est arrivé, c'était fini. Et les gens me huaient.
Oh mince.
Ils ont vu dans la voiture, j'arrivais. Les gens me huaient.
Oh mince.
C'est un truc, quelle ingratitude. Tu vois, comme si tu vois, je m'en foutais ou si j'avais d'autres choses à faire.
Tu fais gaffe maintenant.
Maintenant, on a des, on a de la chance d'avoir des,
oui, avec
des repères.
Portables et ça, c'est un peu plus efficace quand même.
Mais non, donc c'est un de mes pires souvenirs, mais c'était horrible, quoi. C'était affreux. Et donc, je suis arrivé et j'ai quand même joué.
Ah oui? Il en restait quelques-uns?
Je les ai quand même affrontés.
Ouais.
Ouais. Et non sans peine. Psychologiquement, c'était un peu compliqué.
Il était 4 heures du mat.
Je dis, il faut y aller quand même. Et je leur ai dit, je me souviens, je leur ai dit, écoutez, je suis arrivé en retard, c'est pas trop de ma faute, mais peu importe. Et pour la peine, ben, je chanterai plus longtemps.
Bon, alors finalement, ça s'est bien terminé.
Ça s'est bien terminé, mais je suis sorti de là, j'ai dit, mais au secours, ouais, mais au secours. Donc, c'est, je crois, mon pire souvenir de
tournée, ouais.
De scène.
Avais-tu un plan B si la musique n'avait pas marché?
Non, j'aurais été très très mal.
T'avais fait des études de rien,
non,
rien.
Non, c'est pas ça. J'ai fait des études normales, sans conviction, sans, ouais. Tu vois,
sans envie.
Non, parce qu'il fallait le faire. Mais heureusement que.
Heureusement, ça a marché.
Heureusement que ça a fonctionné. Ouais, heureusement que ça a fonctionné. D'ailleurs, je savais que j'allais faire de la musique, mais j'aurais pu, tu vois, j'aurais fait de la musique de film ou j'aurais fait des
oui,
des
pas forcément chanteur sur scène.
Non.
Mais t'aurais continué à composer.
C'était pas du tout une envie de chanter sur scène à l'époque.
Et quel est ton petit surnom en couple? Est-ce que tu en as un? Genre mon chat, petit amour.
Non, chou.
Chou, c'est mignon, chou. Et ta maman, elle te
donnait... J'entends le chou.
Elle te donnait un petit surnom, ta maman?
Ma mère, non. Non.
Ah non?
Non, mon chéri.
Mon
nom classique. Non.
Est-ce
non.
que t'es un petit peu jaloux d'un chanteur en disant j'aurais aimé avoir la même voix, j'aurais aimé écrire ces chansons-là?
Non, écrire, j'aurais aimé écrire, j'aurais adoré écrire ce titre, oui, mais sinon, non.
Qu'est-ce que tu as gardé de ton père qui ne te quitte jamais? Un objet, une photo, un gris-gris, il y a quelque chose? Ou c'est peut-être dans la tête, simplement dans le cœur?
Oui, c'est surtout ça. J'ai pas beaucoup d'objets de lui. Mais j'ai surtout ce qu'on a vécu ensemble,
des
souvenirs, et c'est ce qui compte le plus. Le reste, quand on part, on s'en va d'ici pour d'autres aventures, on garde rien avec nous. Hein. On garde ce qu'on a vécu. Donc voilà.
Et dernière petite question qui risque de choquer beaucoup de nos auditeurs et de nos auditrices. Maintenant que tu es grand-père, car oui, David Hallyday est grand-père.
Et trois fois.
Trois fois. Ça commence à faire. Ouais. On t'appelle comment? Papy, Pépé,
Dadou.
Dadou.
Ouais.
Ah, Dadou, ça va, c'est mignon.
Ça va.
Papy, t'aurais pas non?
Bah écoute, ça s'est pas présenté.
Ça s'est pas présenté.
Et Dieu merci.
Ouais, ça t'arrange.
Ouais, ça m'arrange bien si tu veux. Ouais, Dadou, non, ils sont trop mignons, Dadou. Non, mais chez nous, on a décidé. Moi, je voulais faire des enfants jeunes pour pouvoir en profiter longtemps et éventuellement profiter de mes petits enfants.
Donc, t'es un grand-père jeune.
Moins jeune, mais pas trop senior non plus. Tu vois, entre les deux.
Non, ça va. Honnêtement, ça
merde bien. On se démerde bien.
D'ici, t'es encore tout à fait potable.
On peut s'amuser encore.
C'est tout. Pour le moment.
Je m'en remets pas, David, papy. Allez, on se retrouve dans un instant sur M Radio.
Tous les samedis, 10h midi, bienvenue chez Beaugrand.
Toutes les semaines, on refait la vie de notre invité avec quelques petits extraits sonores qui l'ont marqué. À mon avis, vous allez forcément vous reconnaître. Tu nous as donné les petites infos avant, donc on a déjà tous les extraits qui sont prêts. Voici le premier disque que tu as acheté. Les Pink Floyd.
Pink Floyd... Quand j'ai découvert Pink Floyd, en fait, il y a tout un monde musical qui s'est ouvert à moi.
Ouais.
Dans l'intensité, dans les thèmes, dans cette espèce de truc un peu révolutionnaire, et dans la musique d'un peu grave.
Ouais.
Tu vois, je fais waouh, c'est tellement beau.
Et qui racontait des histoires aussi.
Qui racontait
c'est
des
ça.
Histoires d'époque et
oui, qui est lié vraiment à une époque, à l'histoire.
C'est ça, la société de l'époque, et ce qui passait dans le monde aussi. Et avec force et intelligence, cette musique était tellement...
Et ça t'a inspiré.
Ça m'a inspiré, donc j'ai adoré cet album. Et c'est toujours une référence.
Le générique de dessin animé de ton enfance. Ça, c'était génial.
Ah bah oui.
C'est Goldorak. Elle était bien cette chanson.
Écoute, ouais.
Bah, c'est mieux que les génériques d'aujourd'hui. Ça fait vieux con de dire ça, mais c'est vrai quand même, franchement.
Ah ben, c'était l'époque, hein, donc oui.
Ah, c'était un peu années 70, là, celle-là, oui, c'est un peu disco.
C'était un peu un mélange hybride un peu bizarre, mais
c'est les bruits des rayons laser aussi derrière.
Okay.
Ouais. On l'aime bien ça. La plus belle voix selon toi? Sublime. C'est Barbara Streisand.
Bah oui, pour moi. Hein.
Elle est peut-être un peu moins connue en France que, qu'aux États-Unis, évidemment.
Non, à l'époque, aux États-Unis, elle était connue partout.
Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, ça parle moins peut-être Barbara Streisand, mais c'était extraordinaire.
Oui, t'as raison. Et c'est dommage parce que c'est je pense que c'est pour moi la première diva, quand on cite les divas.
Carrément, oui.
C'est la première, avec une émotion tellement forte, une voix tellement... tellement incroyable, moi je...
Et en plus, il paraît qu'elle est sympa, qu'elle est très drôle. Tu l'as rencontrée,
ouais,
ou pas?
Non, jamais. Non. Jamais. Mais ma mère l'a rencontrée.
Ah bah, j'imagine.
Fois, quand elle avait chanté à Las Vegas. Et même en tant qu'actrice, je sais pas, elle a un truc, cette femme, que les autres n'ont pas eu à ce point.
Voici la chanson que tu aurais aimé écrire. C'est Yellow de Coldplay.
Ouais, ce premier titre. Ouais, il y en a tellement que j'aurais aimé écrire.
Ouais. On en parlait tout à l'heure. Il y a certaines chansons que tu dis, tiens, ça, j'aurais aimé écrire.
J'aurais tellement aimé, ouais. Mais c'est pas de la jalousie. Je suis pas quelqu'un de jaloux. Mais
tu dis, elle est tellement bien, cette chanson.
Tu vois, il y a. Ouais.
J'aurais aimé trouver ça.
J'aurais trouvé ça. Mais il y en a d'autres. Il y a. Don't Stop Believing, Journey, parce que j'ai vécu cette chanson avec Steve Perry, qui est un de mes chanteurs préférés de l'époque, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, qui s'est arrêté de chanter parce qu'il avait des nodules sur ses cordes vocales et qui ne kiffait plus partir en tournée. Ça, donc il a une histoire incroyable. Et tu vois qui c'est, Steve Perry?
Alors, de nom, mais je vois
le,
pas.
Le nom Journey, tu vois pas ce que...
Le moyen.
Ben pourtant, là, sur TikTok, là, la jeune génération,
t'es
encore jeune.
Je suis trop vieux.
Mais arrête tes conneries. Là, sur TikTok, c'est partout, dans Stop Believing. C'est comme la Maritza. La Maritza.
Ça, je l'ai, celle-là.
Ouais, voilà, tu vois.
Tu veux que je la chante?
Ben regarde.
La Maritza, c'est Maritza. Bon, dans quelques instants, on répond aux questions des auditeurs sur M Radio.
Bienvenue chez Beaugrand, 10h midi sur M Radio.
On est bien en direct? Pas du tout. Tu peux être malhonnête quand même. On est enregistré. Ça a été enregistré.
Ne mens pas, s'il te plaît.
Je suis désolé. Il y a quelques jours. Donc non, on est enregistré, mais on est ravis d'être avec vous tous les samedis matin. C'est pas grave, on garde. Bon, on a lancé un appel sur les réseaux sociaux de M Radio pour que les auditeurs et tes fans notamment posent toutes les questions qu'ils souhaitent sur notre boucle WhatsApp 06 95 094 094. N'hésitez pas à nous laisser des messages pour nos prochains invités ou pour nous dire ce que vous avez pensé de l'émission. Une question de Mathias.
Salut Christophe, salut David, je suis passionné de cinéma et justement, tu as pu apparaître dans plusieurs films. Est-ce que tu as d'autres rôles prochainement? Merci beaucoup.
Ah, est-ce qu'il y a des projets de fiction dans les cartons?
Oui, c'est une bonne question. Ouais, je suis très cinéphile, j'adore le cinéma, j'ai toujours aimé le cinéma. J'avais fait un film aux États-Unis quand j'étais jeune et quelques apparitions après, mais jamais vraiment d'une façon prononcée. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer José Dayan et de bosser sur un des épisodes de Capitaine Marlowe que je ne connaissais pas bien auparavant.
Ah, qui est une série qui méga cartonne en
France. Hein. Énorme.
C'est une des séries les plus regardées.
Je connaissais José Dayan parce qu'elle a fait plus de 150 films et donc c'est une institution chez nous. Et donc, quand elle m'a proposé de faire, j'ai tourné pour Marlowe un des épisodes qui s'appelait À Contre-Courant. Et suite à cette rencontre, on va dire, elle m'a proposé de faire une série avec moi qui s'appelle Ardennes. Donc c'est une nouvelle série qui va sortir France Télévisions, France 2. J'adore cette femme. Il y a un truc qui s'est passé entre nous et j'ai tellement de chance qu'elle ait envie de tourner avec moi qu'on a imaginé cette série qui s'appelle Ardennes, qui était en fait une série sur des enquêtes criminelles, mais pas que, avec un twist où le personnage principal qui est moi, je joue un psy qui a vraiment une fonction de psy, mais qui est aussi qui aide la police,
qui est psy et enquêteur
à résoudre des cold cases que la police n'arrive pas à résoudre.
Alors tu es prêt à devenir un personnage récurrent?
Mais en même temps, il a un twist, ce personnage, parce qu'il est, sans en dire trop, on découvre des choses un peu bizarres sur lui. Ah. Donc il a un passé.
Il a des failles.
il y a des failles et c'est un personnage assez mystérieux. Donc c'était super amusant à jouer. Donc là, on a fait le premier épisode qui devrait paraître fin d'année, je pense.
Ah, c'est génial. Donc peut-être tu es prêt à devenir, pourquoi pas, un personnage récurrent à la télé
ou... Ouais, ils ont.
C'est génial.
Ouais. Écoute, j'espère en tout cas. On s'est bien amusé à tourner ça. Donc ouais, c'est dans les plans.
Dans quelques instants, on remonte le temps avec David Hallyday pour écouter les tubes qui correspondent aux dates de ta vie.
Jusqu'à midi, Christophe Beaugrand sur M Radio.
David Hallyday, tu es donc né le 14 août 1966. Alors déjà, j'ai envie de dire quoi ?
Le siècle dernier.
Ouais. Non, mais tu vas fêter tes 60 ans donc l'été prochain ?
Ouais.
C'est parce que tu fais au moins 10 ans
de
moins.
C'est ouf, non ?
Bah ouais.
C'est dingue, même pour moi. Mais moi, j'y pense jamais. On le rappelle toujours, mais moi.
Bah oui, je suis désolé.
Pour moi, ça change pas ma vie. Mais...
Ça ne se voit pas.
Un petit peu quand même.
Ah non, quand même.
Ouais, c'est gentil.
Qui était numéro 1 des ventes en France en août 1966?
Bonne question.
700 millions ah. de Chinois.
Pas n'importe quoi, hein.
Bah, un ami de la famille.
Ah, là, ouais,
Dutronc.
Bah oui.
D'ailleurs, la dernière tournée de ton père, c'était avec Eddie
ouais,
et Dutronc, hein, les,
ouais, ouais.
les vieilles canailles.
Ouais.
Tu le voyais quand t'étais petit, Dutronc, de temps en temps?
J'ai pas de souvenir de trop le voir, non.
Mais c'était non. évidemment. Enfin, c'était une figure aussi. Hein.
Bah, carrément, ouais.
Et quel était le tube de Johnny en 66, tu sais?
Non.
On en parlait tout à l'heure.
Ouais.
Alors, autre date très importante de ta vie, le 15 novembre 1988. C'était la date de sortie de cette chanson. Ça, c'est l'original. Hein.
Ouais.
Ouais. T'avais 22 ans.
C'est là que tout a commencé. Ouais.
Et donc tu sors un premier tube totalement en anglais. Ça va cartonner, ça va s'appeler High. Donc numéro 1 des ventes en France. J'ai lu que ça avait été également numéro 5 en Europe. Ça a été un gros carton.
Et aux États-Unis, c'est rentré
et
dans les
États-Unis
charts
aussi,
aux États-Unis.
Ouais.
Ça a commencé là-bas en fait.
Mais c'est dingue et parce que tu dis que t'avais que 22 ans. Personne ne te connaissait aux États-Unis, encore
non.
moins. Le nom Hallyday, ça voulait rien dire, ça n'était pas connu. Ça a été une surprise assez incroyable pour toi. Tu n'imaginais pas que ça allait démarrer tout de suite, comme ça?
Ah non, c'est un truc de malade.
Ouais.
Ouais, parce que moi, en fait, j'étais dans mes groupes de rock avant et on faisait des petits clubs, on faisait, tu vois, des afters, des trucs comme ça, quoi. Et donc j'avais fait cet album et c'était mon premier album avec mes compos, mes trucs. Et j'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer, quoi.
J'ai vu des vidéos, t'avais un beau brushing à l'époque. Hein.
T'as vu, c'est l'époque.
Capillairement, il y avait un truc. Hein.
Ah, il y avait un truc que t'as plus envie de voir, en fait.
Ah, bah, c'est daté, on va dire.
C'est très très daté, ouais. Comme certaines prods de tu dis, ouais, il faut refaire quelque chose.
Ah, parce que la chanson a bien vieilli quand même.
Oui, c'est. Pas trop
ah, c'est
mal.
Années 80.
C'est mais... pas trop mal, ouais, c'est 80.
Mais
c'est...
tu l'as repimpé là encore.
Oui. Pimp My Ride.
Voilà.
Ouais. Mais non, et Capillaire, c'était. Les groupes de métal à l'époque.
Oui, capillairement, il se passait des trucs. Hein.
C'est une époque, une drôle d'époque.
Et sais-tu quelle chanteuse française était numéro 1 en novembre 88 quand High est sorti? C'était elle,
alors,
la Rousse.
Oui, bah, j'allais le dire.
Ouais. Mm. Eh oui, Mylène Farmer, pourvu qu'elle soit douce. Mmh. D'ailleurs, il n'y a quasiment plus que Mylène Farmer qui fait en grande artiste française, qui fait des shows,
énorme,
on va dire,
énorme,
à la hauteur de ceux que faisait ton père, dans les grands stades, comme ça.
Bah, carrément, ouais. Incroyable, Mylène.
Et dernière date,
c'est une belle personne aussi.
Je sais qu'ils s'entendaient bien avec Johnny. Ils ont même chanté un duo qui n'est jamais sorti, paraît-il.
Ouais, bah, elle a fait plusieurs duos, bah, rarement, mais le dernier en date, c'était avec Sting, je crois.
Ouais, avec Sting et Lucille aussi, magnifique.
Ouais.
Et le 2 juin 99, c'était la date de sortie de l'original de Tu ne m'as pas laissé le temps. Et c'était un numéro 1 à l'époque totalement différent. Là, c'est autre chose.
Ah ouais, je me souviens plus de ça.
Pierre-Paul Jacques.
Ah ouais, il s'appelait.
D'accord. Oui, bah ça sortait un petit peu la bœuf quand même, hein, on peut le dire. Non, la cigarette qui fait rire, comme on dit. Allez, on continue de passer la meilleure des matinées ensemble sur la radio, 100% chansons françaises avec David Hallyday.
Jusqu'à midi, Christophe Beaugrand sur M Radio.
C'était David Hallyday, notre invité ce matin. Quel album, les plus belles chansons de Johnny, les plus belles chansons de David, réorchestrées par David Hallyday. Et la tournée, David, tu vas être partout jusqu'à la fin de l'année. J'ai vu qu'il y a Toulon, Grenoble, Metz, Marseille, Brest, aux quatre coins du pays. Le 12 novembre, ce sera à Paris, au Dôme de Paris. Et en 2026, ça continue.
Absolument. Ouais.
Donc on ne pourra pas éviter David Hallyday. allez voir ce concert Requiem pour un fou et retrouvez tous les bonus de cette interview dans le podcast et sur YouTube. Et nous on se retrouve samedi prochain de 10h à midi. Et d'ici là, n'oubliez pas, soyez beau, soyez grand, soyez
fou.
Beau grand. Ciao, à la semaine prochaine.